Je vous invite à prendre vos Bibles et trouver d'abord Matthieu chapitre 10. Pas ce qui est marqué sur l'écran, mais on y arrivera. On n'avait pas fait en juillet, mais parce qu'on était en Romain, mais depuis quelques mois, quand nous célébrons la Sainte Cène, nous essayons de suivre un peu le parcours chronologique des événements qui ont amené jusqu'à la crucifixion de Jésus. Et nous avons parlé de ces 6 procès que Jésus a subis. Et en fait, en le considérant, Jésus est devant un ennemi après l'autre. Il est d'abord devant les chefs religieux, devant Caïphe et Anne. Et puis, on l'amène, il est devant Pilate. Et donc, c'est Jésus face à Pilate. Et Pilate l'envoie à Hérode. C'est Jésus face au renard qui est Hérode, et puis Hérode le renvoie à Pilate, et c'est encore Jésus face à Pilate. Et en regardant l'histoire de la crucifixion de Jésus, il y a un autre homme dont chacun des 4 évangiles parle. Il joue un rôle important dans la vie et la mort de Jésus. Il est vraiment dans une catégorie à part que Hérode et Pilate et même les chefs religieux, de par premièrement sa relation avec Jésus, qui était une relation intime pendant plusieurs années, et de par la façon dont il va livrer Jésus. Pilate va livrer Jésus à la mort, c'est le mot qui est utilisé. Les chefs religieux vont livrer Jésus à Pilate, c'est le même mot qui est utilisé. Mais il y a quelqu'un qui va livrer Jésus aux chefs religieux pour qu'il soit livré à Pilate, pour qu'il soit livré à la mort. Et cet homme est un des 12 apôtres, un des 12 disciples. Donc de par sa relation avec Christ, mais aussi la nature de la façon dont il a livré Jésus, c'était par une trahison. Il a vendu Jésus. Il a estimé la valeur de Jésus à 30 pièces d'argent. Et vous connaissez, j'imagine, son nom, mais on va le retrouver ici en Matthieu 10, où nous avons la liste de ses 12 disciples. Matthieu 10, verset 1, puis ayant appelé ses 12 disciples, c'est Jésus, leur donna à tous, le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Qui avait ce pouvoir? Pas tout le monde. Ces 12 avaient ce pouvoir. Et les noms des 12 apôtres, le premier c'était Simon, appelé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et, il est toujours mis en dernier, il faisait partie des 12, Judas l'Iscariote. Notez comment il nous est présenté ici pour la première fois. Celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Jean 6, 64, nous dit que Jésus savait, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Gardons cela à l'esprit. Jésus savait depuis quand? Depuis le commencement, quand il a choisi. Il a dit, ok, je veux Simon. Je veux Judas. En disant, je veux Judas, il le savait déjà. Jean 6, verset 67, nous donne encore plus de détails. Quand ça dit que Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Parce que beaucoup de gens avaient quitté Jésus à cette époque. Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint, de Dieu. Et puis, Jésus leur dit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Et l'un de vous, regardez ça, l'un de vous est un démon. Et il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devrait le livrer, lui, l'un des douze. C'est lui qui devrait le livrer. Lui, vous voyez comment c'est dit? Lui, l'un des douze. Trouvez maintenant Matthieu 26. Et nous allons lire une bonne partie de ce chapitre. Mais en réfléchissant ici surtout au rôle de Judas. Matthieu 26. Lorsque Jésus achevait tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse, et de le faire mourir, mais de dire, bon, que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, alors, ça vient de tous les disciples, hein, Matthieu le dit bien. Mais Jean précise que le porte-parole dans ce cas était Judas. Parfois, c'est Simon ou Pierre le porte-parole, mais ici, c'est Judas qui l'exprime. Jean 12, verset 4, dit, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait livrer Jésus, dit, et nous l'avons ici en Matthieu, à quoi bon cette perte? Verset 9. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Et ils reprirent, et en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis, en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Verset 14. Alors l'un des douze, vous voyez ça, l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai. » C'est ce mot « livrer ». Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Ça, c'est comment sa tête tourne, hein, maintenant. Jésus est en train de faire des discours, mais lui pense à autre chose. Il pense à un moment favorable pour livrer Jésus. Regardez le verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et ils préparèrent la Pâque. Pardon. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Donc vous voyez, c'est très restreint, hein, c'est que les 12 ici. Et pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Luc 22-21 ajoute, « La main de celui qui me livre est avec moi à cette table. » Verset 22, ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui était écrit de lui. Mais malheur à l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Je lisais un prédicateur allemand du 19e siècle, Krumacker, et il a dit que dans tous les versets de la Bible, c'était ce verset qui l'effrayait le plus. Jésus tourne et dit à un de ses disciples, malheur. C'est une malédiction. Malheur à cet homme. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Et verset 25 dit, Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Et Jésus lui répondit, tu l'as dit. Jésus prononce une malédiction sur Judas. Et Jean 13, verset 2 précise, et je vous lis ce verset, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus, il va néanmoins laver ses pieds. Imagine Jésus en train de laver les pieds de Judas. Et Jean nous donne encore des détails importants. Il dit que Simon-Pierre fut signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et le disciple qui était penché sur la poitrine de Jésus lui dit, Seigneur, qui est-ce? Et puis Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Quelques-uns pensaient même, comme Judas avait la bourse, que Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Puis verset 30 dit ceci, Judas ayant pris le morceau, c'est le premier repas, que nous allons célébrer. Lui participe, il prend le morceau. Ayant pris le morceau, il se hâta de sortir, il faisait nuit. Judas était le premier à manger et à boire un jugement contre lui-même. Et la prochaine fois qu'on le retrouve, c'est dans le jardin de Gethsémané. Et là, c'est en Matthieu 26, regardez verset 45. Puis Jésus alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant. Et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons, voici. Notez cela au verset 46. Celui qui me livre s'approche. Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyées par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Et celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et lui donna un baiser. Et Jésus dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Luc ajoute qu'il a aussi dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Et alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et puis la dernière fois qu'on le retrouve, c'est en Matthieu 27. Suivez-le s'il vous plaît dans vos Bibles. Matthieu 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tirent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et après l'avoir livré, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors, Judas, notez comment il est décrit ici, qu'il l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, verset 4, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe. Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Luc ajoute en acte que, apparemment, il s'est pendu, mais que son corps est tombé, que ses entrailles ont été éventées. Et donc, verset 6, les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Et c'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. En Matthieu 10, verset 4, Judas est désigné comme celui qui livra Jésus ou trahit Jésus. Et puis, fois après fois, il est parlé, il est mentionné comme celui qui livra Jésus. Il va dire lui-même même en Matthieu 26, 15 au chef, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. En Matthieu 26, 24, Jésus l'identifie comme l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Verset 46, celui qui me livre s'approche. Chapitre 27, verset 3, Judas qui l'avait livré. Et c'est le même mot que Judas utilisera de lui-même quand il dit « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Donc voici le caractéristique le plus souligné par la Bible concernant Judas. On le trouve dans la bouche des évangélistes, on le trouve dans la bouche des chefs religieux, dans la bouche de Jésus, dans la bouche de Judas lui-même, il est celui qui va livrer Jésus. Et Luc 6, verset 16, utilise un autre mot de lui, ça dit Judas Iscariote, celui qui devint un traître. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, le Christ et son traître. Alors, Judas joue un rôle intégral dans la vie et dans la mort de Jésus. Tous les quatre évangélistes en parlent. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre par cela? On est là pour penser à Jésus et sa mort pour nous. Qu'est-ce que Judas vient faire dans tout cela? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par ces détails. Mais je pense que ça nous montre à la fois ce qu'est l'homme et ce que l'homme est capable de faire. Et ça nous fait aussi voir ce qu'est le Christ. Parce que Judas, il va servir un peu comme porte-valeur pour mieux montrer qui est Jésus-Christ. En fait, s'il n'y a pas d'obstacle, on ne peut pas dire j'ai un cheval qui sait sauter les obstacles. Ben, il faut mettre des obstacles pour le prouver. Et pour prouver que Jésus est parfait, qu'il peut résister à tout, il faut lui aussi mettre des obstacles. Et donc, on va lui mettre des chefs religieux, on va lui mettre Pilate, on va lui mettre Hérode, on va lui mettre la foule qui tourne contre lui, et très intimement, à côté de lui aussi, on va lui mettre un Judas, un traître. Et ça va nous démontrer qui vraiment est Jésus. Donc, la trahison de Judas nous apprend des choses d'abord sur l'homme. Qu'est-ce que nous voyons sur l'homme? Et la première chose qui m'a frappé, c'est cette simple vérité que tout les hommes ne seront pas sauvés. Tous ne seront pas sauvés. En Matthieu 26, verset 24, Jésus parle de son avenir. Il dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Il parle ici de sa manière dont il va mourir, mais aussi du lieu où il ira. Il a dit plusieurs fois aux disciples, en Jean 13, je vous lis verset 1, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Il va dire, moi je vais au Père. Il dit, ok, c'est sûr, n'importe ce qu'on me fait, moi, le Fils de l'homme s'en va. Il va au Père. Sur la croix, il a précisé qu'il allait au paradis en promettant à ce vil larron le même sort que lui. Mais notez bien le contraste qu'il dresse entre son avenir et celui de Judas. Regardez Matthieu 26, 24. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Alors, je vous invite de contraster juste un moment ce que Jésus dit au brigand condamné sur la croix. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi, où? Au paradis. Et ce qu'il dit ici à un de ses propres disciples qui l'avait accompagné pendant 3 ans de ministère. Malheur. Il vaudrait mieux que cet homme ne soit pas né. Il pense à la vie après la mort. Alors ne nous permettons jamais de penser que l'éternité offre le même sort pour tous. Que tous ceux qui passent par la mort et le trépas vont forcément au paradis. Écoutez cette malédiction. Malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Pendant toute l'éternité, ça aurait été mieux qu'il ne soit même pas né. Il y aura une division entre ceux sur qui Christ prononce une bénédiction et ceux sur qui il prononce une malédiction. Il n'y a pas de troisième groupe, mes amis. Soit vous êtes bénis, soit vous faites parmi ceux qui sont maudits. Mais ça va un peu loin, on peut dire aussi, deuxièmement, que tous qui s'identifient au Christ ne seront pas sauvés. C'est pas simplement que tous ne seront pas sauvés, mais même tous ceux qui s'identifient au Christ ne seront pas sauvés. L'identité de ce traître, une des choses qui est intéressante dans l'histoire, c'est que l'identité de ce traître est restée secrète jusqu'à l'heure même de la trahison. Jésus leur avait dit, un de vous est un traître, un de vous un démon, un de vous allez me livrer. Mais c'est important de noter que les 11 qui ont partagé tant d'expériences fortes avec Judas, qui ont fait des voyages avec lui sur la mer et dans les tempêtes, qui ont fait des campagnes d'évangélisation, qui ont fait des guérisons avec lui, n'ont pas soupçonné qu'il allait être le traître. Eux, ils vous auront pas dit ça, le jour avant. La nuit même de sa mort, Pierre demande à Jean de demander à Jésus l'identité du traître. Et puis, les disciples demandent à un, Seigneur, est-ce que c'est moi? Ça, c'est leur pensée. Et quand Jésus dit, ce nous est rapporté en Jean 13, il fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Jésus est troublé, c'est la nuit avant sa mort, un de vous va me livrer, ils se regardent. Ils n'ont aucune idée. Judas est comme l'un de leurs. Et on sait même que Judas ne le soupçonnait pas lui-même. Jean 13, verset 2, précise que lors de la dernière scène, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Voyons donc que c'est l'activité du diable qui met cette pensée dans son cœur de livrer Jésus, comme il mettra plus tard dans le cœur de Ananias et Saphira de mentir au Saint-Esprit, hein, dans la providence de Dieu, Satan peut avoir un accès, quand Dieu le permet, de planter des idées néfastes, même dans nos pensées. Mais Satan n'est pas encore entré dans Judas, comme il le fera plus tard dans la soirée, lorsque Jésus lui donne le pain. Mais le contexte quand même suggère que ce dessein de livrer Jésus, qui est planté dans son cœur, s'agit d'un événement relativement récent. Judas n'a pas commencé sa vie de disciple en disant « Tiens, je vais être son disciple pour pouvoir après me faire un peu d'argent en le reniant. » Certainement pas. Il était certainement passionné de Jésus et l'a suivi avec joie. Il a accepté librement de s'identifier à Jésus comme les autres disciples. Il a accepté de partir en mission. Il a accepté de prêcher aussi le royaume de Dieu et dire que le royaume de Dieu est proche au nom de Jésus-Christ. Il a accepté de faire des miracles. Et pour autant, Jésus a dit à ses disciples en parlant de lui, « Un de vous est un démon. » Et après tout ce temps passé ensemble, Jésus dira, « Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Même avec toutes ces expériences qu'il a eues auprès de Jésus, mieux vaut qu'il ne les ait jamais eues et qu'il ne soit jamais né. Et Jésus lui dira un jour, au jour du jugement, « Je ne t'ai jamais connu. » Tous ceux qui s'identifient au Christ ne seront pas sauvés. Matthieu 7, verset 21, Jésus dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Judas était un qui disait « Seigneur, Seigneur !» Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il est possible d'avoir une profession sans vraiment connaître Jésus-Christ. Jésus ne reproche pas à ces gens ici en Matthieu 7 de ne pas l'appeler Seigneur. Il faut faire cette profession pour entrer au ciel. Mais seul, ce n'est pas suffisant. Un non-chrétien peut croire à une vérité biblique. Les démons croient même. Donc, il ne faut pas se fier simplement aux professions seules. Et la répétition, quand ils disent « Seigneur, Seigneur », ça communique même une forte émotion de la part de ces gens. Ils ont de la ferveur. Mais la question à se poser, c'est quel effet est-ce que ces vérités ont sur ma vie? Qu'est-ce qu'ils vous assurent, mes amis? Il faut se poser la question, comme les disciples d'ailleurs l'ont fait. « Seigneur, est-ce moi ?» Qu'est-ce qui vous assure que votre profession actuelle, présente, vous empêchera de le renier un jour? Si les 30 pièces d'argent vous sont offertes et sont trop importantes pour négliger, ou si la menace de la persécution est trop forte, qu'est-ce qui vous assure que vous allez pouvoir résister à ces choses? Et si ça c'est le cas et vous êtes comme Judas, mieux vaudrait pour vous que vous ne soyez pas né. Et on peut aller encore un peu plus loin et dire même tous ceux qui exercent un ministère de premier rang ne seront pas sauvés. Le ministère de Judas était comme celui des autres apôtres. Personne n'a dit plus tard, Je me demandais toujours, mais pourquoi Judas ne pouvait pas faire de miracle? Et pourquoi quand il prêchait, il n'arrivait jamais à prêcher? Je me savais qu'il y avait quelque chose avec lui. Non, il ne disait pas cela. Il prêchait comme les autres. Il faisait des miracles comme les autres. Il chassait les démons comme les autres. On lui avait même confié le rôle de trésorier. Il était considéré comme un homme de confiance. Et pourtant, Jésus dit, mieux vaut lui qu'il ne soit jamais né à cause de la malédiction éternelle qui tombe sur lui. Jésus ne refute pas, Matthieu 7 encore, ce que les gens disent quand ils disent, Seigneur, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom, etc. Ils sont un peu comme Judas. Jésus parlait peut-être même à Judas à cet instant-là. Est-ce que nous avons pensé au fait que c'était dans le dessein de Satan de garder Judas dans cette position d'apôtre pendant tout le ministère de Jésus? Satan veut qu'il soit là, voulait qu'il soit là. Et donc Satan va se servir de Pierre, en fait, pour essayer de détourner Jésus de sa mission. Jésus va dire même à Pierre, mais détourne-toi de moi, Satan, ou arrière de moi, Satan. Mais c'est dans l'intérêt du diable, comme avec Judas, encore aujourd'hui, de garder ses propres ministres dans les plus hauts rangs de l'Église de Jésus-Christ. Et 2 Corinthiens 11, 14 nous dit que les ministres de Satan continuent à se déguiser en ministres de Christ, et je cite, « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Et donc Jésus nous montre la facilité avec laquelle on se trempe sur les évidences du salut. L'homme se trempe encore facilement entre le ministère et le ministre. Quelqu'un a un beau ministère, il dit forcément lui doit être un bon ministre. Mais il ne faut pas confondre le succès du ministère avec l'approbation du ministre. Jésus dit de Judas qu'il aurait mieux valu qu'il ne soit jamais né. Et c'est frappant quand on considère tous les privilèges que Judas a eus au cours de sa vie. Ça nous montre que l'idée que Jésus fait des tourments de l'enfer après la mort, que rien dans la vie ne peut compenser les horreurs qui vous attendent, qui vous êtes hors de Christ. Je me rappelle une fois, j'étais jeune à l'époque, mais une femme plus âgée, que j'étais amie avec son fils, et donc elle me parlait et elle m'a dit, elle voulait faire quelque chose qu'elle savait n'était pas bonne, elle a dit, moi je suis prêt à passer, j'oublie comment elle a dit, 900 ou 9000 ans en enfer pour pouvoir le faire. J'étais tellement choqué, je ne savais pas quoi dire, en fait je n'ai rien dit. Ça m'a tellement surpris. Mais cette logique est complètement folle, mes amis. Complètement folle. Qu'est-ce qui peut compenser à une seconde dans les tourments de l'enfer? Et une fois qu'on y va, on n'y revient jamais. Schumacher, ce prédicateur allemand que j'ai déjà mentionné, il a dit « Observez en effet que Judas avait aussi abandonné le monde en apparence. » Il parle ici des avantages qu'avait Judas. Il avait été nourri du lait de la parole divine. Il avait vécu ensuite continuellement parmi les enfants de Dieu. Il avait été innocemment considéré par eux comme un frère. Il avait prié et jeûné avec eux. Il avait appartenu à la suite immédiate du prince de la paix. Il avait été son disciple et son confident. Il avait aidé à prêcher son évangile. Il avait souffert l'opprobre pour l'amour du Christ. Il avait, comme les autres, accompli des miracles au nom de Jésus. Et pourtant, malgré tout cela, il aurait été préférable pour lui de ne jamais naître. Prenez ceci à cœur, mes chers lecteurs, et gardez-vous de considérer votre respectabilité, vos actes de dévotion, vos connaissances religieuses, votre bonne réputation parmi les croyants et autres choses semblables comme une défensure derrière laquelle vous êtes à l'abri des flammes de l'enfer. C'est un avertissement sobre que nous devons prendre à cœur. Et les gens s'en servent de ces choses. Parfois, je demande à quelqu'un, vous êtes en Christ? Oui, je suis membre d'une église. Vous connaissez le Seigneur? Oui, j'étais baptisé. Vous voyez, on se repose naturellement sur ces choses. Mais Judas avait plus que nous. Plus que nous. Et pourtant, il est en enfer. Alors, qu'est-ce que donc la trahison de Judas nous apprend sur l'homme? Eh bien, que le salut ne vient pas par nos œuvres. Mais qu'est-ce que la trahison de Judas nous apprend aussi sur le Christ? Nous voyons que Jésus-Christ est incontestablement parfait dans ses relations humaines. les perfections de Jésus resplendissent face à la trahison de l'un de ses proches. Je vais vous lire le psaume 41, verset 10. David parle et dit, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Alors David est roi, il avait des ennemis de partout, hein. Mais en tant que roi, il a des ennemis, les Philistins sont ennemis, etc. Mais celui qui, qu'est-ce qui fait si mal au cœur de David? Il y a un frère avec qui il était en paix, qui avait sa confiance et qui mangeait sa pain. C'est-à-dire, David pourvoyait à ses besoins. Il était probablement dans son palais, il vivait, il mangeait à la table avec lui, mangeait la pain du roi. Et c'est lui qui lève le talon contre David. Ça, c'est la plus dure des angoisses. Et c'est à cela que Jésus fait référence quand il dit, Jean 13, verset 18, « Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. » Et quelle est l'Écriture? Écoutez, « Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre lui, contre moi. » Jésus cite le psaume 41, verset 10 comme devant s'accomplir à un nouveau niveau. Il voyait dans les expériences de David le modèle en petit de sa propre vocation. Et donc, ce dernier repas, il garde Judas là, il fait exprès de lui donner du pain, et puis il l'envoie faire. Il le garde dans sa présence. Il mange le pain à la table du Seigneur. Il participe au mémorial de la mort de Christ pour nos péchés. Et puis, il lève le talon contre Jésus. La Bible dit que si nous pouvons contrôler la langue, nous pouvons tout contrôler. Et Jésus, avec un traître, va lui donner le repas, va laver ses pieds, va le traiter avec le même amour qu'il a traité les autres. Hein, les autres ne vont pas soupçonner, hein, Jésus, il met toujours Judas de côté. Nous voyons, qui ici peut vivre 3 ans avec un traître à vos côtés? Hein, il y a des mariages qui se divisent parce que l'un ou l'autre est traître et on ne peut plus vivre l'un avec l'autre. Jésus montre qu'il est vraiment parfait. Il est patient. Jésus nous montre aussi quelque chose par rapport à sa relation au Père. Il montre qu'il est incontestablement confiant dans sa relation avec son Père. C'est-à-dire, Jésus n'est pas déboussolé par cette trahison. Il a une confiance parfaite en son Père. Et la confiance, selon le dictionnaire, c'est la croyance en la valeur morale, affective ou professionnelle d'une autre personne qui fait que l'on est incapable d'imaginer de sa part tromperie, trahison ou incompétence. Jésus est incapable d'imaginer de la part de son Père une incompétence quelconque. Et donc, même avec un traître parmi ses plus proches, il va rester calme, il va se fier au Père. Il dit, le Fils de l'homme va, comme il est déjà annoncé de lui, les prophéties vont être accomplies. Malheur à cet homme, mais il ne pourra pas changer le plan de Dieu. En fait, il sera utilisé pour accomplir le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu mentionne même que ce sera un ami qui mange avec moi du pain qui va me livrer. Donc, il ne va faire qu'avancer le plan de Dieu. Si nous avions tous cette confiance en Dieu, que Dieu peut se servir même des traîtres dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos familles, pour avancer sans plan dans nos vies. Quelle foi en Dieu Jésus a démontré, et c'est la même foi que nous pouvons montrer parce que Jésus nous montre le même amour. Dieu nous montre le même amour. Et la Bible dit en 1 Pierre 2, versets 21 à 23, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Quel est l'exemple que Jésus nous a laissé dans la souffrance? Lui qui n'a point commis du péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, écoutez bien, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait, et l'idée c'est constamment ici, hein, s'en remettait constamment à celui qui juge justement. Certainement ça parle de ses interactions avec Judas. Jésus se remettait constamment à son Père. Et nous, mes amis, nous allons être appelés à faire le même. Nous allons faire face très fréquemment aux gens du monde qui ne cherchent que leur propre intérêt. Et parfois, on peut s'affoler. Il faut me protéger contre lui, il faut me protéger contre elle, il faut me protéger contre cela. Dieu veut qu'on se remette constamment à celui qui juge justement. Il nous protégera. Nous voyons cela dans Jésus et sa réaction à Judas. Et puis dernièrement, nous voyons aussi dans cette histoire que Jésus est incontestablement le seul sauveur. Le seul sauveur. Le Seigneur avait révélé à ses disciples ce secret douloureux. Il a dit qu'il y avait un parmi eux qui était maudit, qui n'avait aucune part dans le royaume de Dieu, qui ne verrait jamais la vie. Le sang de l'agneau ne le purifierait pas du péché. La justice du médiateur ne le couvrirait pas. Quand Jésus a prié en Jean 17, il a dit « Je prie pas pour le monde ». Et donc il ne priait pas pour lui. Au contraire, cet homme resterait ce qu'il était, un enfant du diable. Et donc, Jésus a dit, mieux vaut lui qu'il ne soit pas même pas né. Se réprouver, écarter de lui le seul moyen du salut. En repoussant Jésus, il a repoussé le seul moyen du salut. En trahissant le Seigneur de gloire, il devenait donc irrémédiablement assujetti à la mort parce qu'il n'avait plus Christ. Il se précipitait dans la perdition éternelle en livrant Jésus. En contrasté encore pour terminer cette malédiction de Jésus sur Judas et la promesse du salut qu'il offre aux bandits sur la croix. Celui, on a deux hommes, hein, celui qui a passé sa vie en faisant de bonnes œuvres. Certainement, avant même de connaître Jésus, il avait été quand même connu comme un homme pieux, mais qui a trahi Jésus-Christ. Lui, il est maudit et envoyé en enfer. Mais celui qui a passé sa vie dans le grand banditisme, mais là, sur la croix, il se tourne vers Jésus et dit « Oh Seigneur, pardonne-moi. » Lui va passer l'éternité où? Au ciel, auprès de Jésus-Christ. N'est-ce pas un contraste quand même flagrant? Judas le disciple, l'apôtre, le prédicateur, le faiseur de miracles, est en enfer. Et le bandit, le larron, toute sa vie en rébellion contre l'autorité, qui a commis le meurtre, qui a violé peut-être des femmes, qui a volé de l'argent, lui, il offrait du Seigneur. Jésus démontre par ses réactions à ces deux hommes ce que Pierre dira plus tard en acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous pouvez être la meilleure des femmes ou le meilleur des hommes, mais si vous rejetez Christ, vous êtes perdu. Ou vous pouvez être le chef des pécheurs, comme Paul dit le lui-même. Un pécheur du premier rang. Mais vous venez à Christ et vous êtes sauvé. Jésus est vraiment le seul sauveur. Le prédicateur français Horace Monod, il a dit ceci, vous pouvez suivre cette sentence du Seigneur quand il dit malheur à Judas. Ne tombe pas seulement sur Judas, mais sur tout pécheur endurci. Elle nous dévoile et nous atteste l'effrayante réalité du mal. Au fond, entre l'iniquité de Judas et les nôtres, il n'y a pas cette distance infinie que nous aimons à nous figurer. C'est-à-dire, il y a peut-être pas aussi grande différence entre vous et Judas que vous aimeriez croire. Tous les péchés procèdent du même principe. Toute transgression consciente et volontaire est un attentat contre la vérité et la justice, un acte d'ingratitude et de trahison contre l'éternel amour, un trafic honteux par lequel l'homme vend son âme et son Dieu pour un salaire vide et périssable. Tout homme qui ne se sera point repenti, il aurait mieux valu n'être jamais né. Pour tout jeune qui ne s'est jamais repenti, il aurait mieux valu n'être jamais né. Mais il poursuit, n'avez-vous pas éprouvé vous aussi qu'à de certains moments l'aiguillon d'une convoitise où la fascination peut-être d'un seul péché prend plus d'empire sur nos cœurs et nos volontés que tout cet ensemble de motifs, d'obligations et de souvenirs, de craintes et d'espérance. Alors vous avez toute la parole de Dieu, tout ce qu'il vous dit, et vous avez ce péché, et vous avez choisi quoi? Le péché. Ah, je ne m'étonne plus autant du crime de cet homme. Ce qui me confond et m'effraie, c'est la puissance du mal. Si nous étions vraiment honnêtes, nous dirions tous que nous avons vendu Christ pour bien moins cher que 30 pièces d'argent. La convoitise d'une pensée, on est prêt à chasser Christ. Pour avoir quelques sous de plus, on est prêt à mentir. Pour avoir une vie affective plus intéressante ou une nuit de plaisir, on est prêt à bafouer ses commandements et sa sainteté. Mes amis, nous sommes tous des Judas. Et pourtant, il y a la grâce. Et donc, il dit, et nous, parlons à Dieu, nous te rendons grâce, ô notre Père, avec une reconnaissance inexprimable. Nous te rendons grâce de ce qu'il y a pourtant une puissance infiniment plus grande que celle du mal. C'est la tienne. C'est cette puissance de pardon, de relèvement et de vie qui nous ont été manifestées en Jésus-Christ. Oui, nous te rendons grâce de ce que pour quiconque veut croire au Sauveur, le mal est déjà vaincu, la chair est déjà crucifiée. Et le prince de ce monde est déjà jugé. Christ est incontestablement le seul sauveur. Alors nous allons tous, nous ne pouvons pas ne pas faire ce choix aujourd'hui. Nous identifier avec Judas qui livre Jésus pour les plaisirs du monde. Ou de ce brigand sur la croix qui lui demande pardon. vous allez entrer à l'éternité, soit comme le larron repentant, soit comme Judas qui rejette le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, j'aimerais pouvoir nous réveiller tous, j'aimerais pouvoir avoir la langue d'un ange pour pouvoir nous effrayer de la condition de l'homme pécheur. Et puis nous émerveiller de la grâce qui se trouve en Christ. Mais je suis extrêmement limité. Et donc nous prions que ton esprit œuvre là où même la plus belle parole ne peut pas faire, c'est-à-dire qu'elle donne vie. Qu'aujourd'hui soit le jour du salut. Que tu réveilles les cœurs même au milieu de nous, qui ne se soucient guère de leur éternité, qui jouent avec le temps et la grâce que tu leur donnes, qui entreront bientôt dans une éternité qui n'a pas de fin. Ô Seigneur, qu'aujourd'hui soit le jour du salut, qu'aujourd'hui soit le jour de leur repentance, qu'ils voient que ce n'est pas en eux-mêmes que se trouve la réponse, mais que la grâce est offerte, librement, joyeusement même, pour nous sauver de nos péchés. Et nous prions que nous puissions prendre maintenant ce repas d'une manière digne de notre grand et merveilleux Sauveur. Amen. Je vous invite à chanter avec moi un chant d'invitation. C'est numéro 239. Ça parle de la miséricorde insondable de Dieu. Est-ce qu'il peut tout pardonner? Même quelqu'un qui est peut-être pire que Judas. Et la réponse est oui, un très grand oui. Alors, il faut dire, comme dit le chant, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Que ce soit notre réponse à nous tous. Même si vous connaissez le Seigneur depuis beaucoup d'années. Seigneur, encore aujourd'hui, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi.